Chers amis, si vous le voulez bien, je vais revenir aujourd'hui sur les conséquences pour les hommes de la science moderne. Beaucoup de ces résultats ont été bénéfiques pour l'homme, mais avec le transhumanisme, les intelligences artificielles, qui, nous dit-on, seront dans quelques années plus intelligentes que les hommes, d'où les robots hommes, nous commençons à avoir peur. Certes, la raison humaine qui conduit à la foi en Dieu est souvent aidée par les découvertes scientifiques, et je voudrais vous en donner de nouvelles preuves, mais en commençant par les questions qui inquiètent de plus en plus les hommes d'aujourd'hui. On dit souvent que Dieu est infini, plus grand que tout, qu'il est partout, qu'il connaît tout. Mais comprend-on de quoi on parle ? En effet, parler de l'infini est souvent une façon d'exprimer ce que l'on ne sait pas exprimer parce qu'on ne le comprend pas. L'infini nous ramène d'abord à l'astronomie. Cette science extraordinaire nous a d'abord montré l'immensité des mondes matériels. Notre galaxie, la Voie lactée, que nous croyions si infinie, n'est elle-même qu'une toute petite chose dans un univers peuplé de millions d'autres galaxies. Et, nous disent les astronomes, cet univers grandit constamment à des vitesses vertigineuses. Alors que sommes-nous? Et quelle est notre place par rapport aux anges qui sont de purs esprits? Oui, que sommes-nous, nous les hommes? Un petit documentaire que j'ai regardé récemment montre, à partir de photos réalisées par Hubble, que la Terre n'est qu'un tout petit point dans l'univers, une petite poussière invisible. Et sur cette terre vivent plusieurs milliards d'hommes. Alors qu'est-ce qu'un homme pris individuellement? Et comment Dieu, de plus en plus indéfinissable car créateur de cet infini matériel, comment Dieu peut-il nous connaître personnellement, nous aimer individuellement et avoir une relation avec nos intelligences et entendre nos appels? Heureusement, et je vous en ai déjà parlé, il y a l'infiniment petit, tout aussi grand que le cosmos. Nous nous perdons de plus en plus. Heureusement, nous les hommes, nous sommes entre ces deux infinis. Pourtant, cela ne supprime ni notre déséquilibre, ni notre inquiétude, car nous ne savons plus où nous sommes, ni ce que nous sommes. Nous avons seulement conscience de notre faiblesse, de notre petitesse, de notre fragilité. Au fond, que sommes-nous ? Oui, que sommes-nous? Pourtant nous existons et nous pensons. Qui donc nous a fabriqués ainsi sensibles et intelligents? Et voici que surgit la merveille. Oui, Dieu existe, cela c'est une certitude, car une telle perfection dans la nature et dans ses lois que nous continuons à découvrir, une telle intelligence, notamment dans la cinétique de la création, nous prouve que cette création n'a pas pu s'être faite toute seule. Certes, nous avons du mal à imaginer nos relations, nous, finies, avec Dieu infini. Mais nous savons au moins que Dieu existe. Et puis la science nous montre également qu'en Dieu, il y a un incroyable désir de toujours continuer à créer. Donc, à continuer à nous créer, nous aussi. Pourtant, bien d'autres questions subsistent. Certes, nous comprenons vite que nous ne pouvons pas voir Dieu, et encore moins la face de Dieu, car nous sommes en Dieu, donc enfouis en Dieu. Alors, comment Dieu nous voit-il? Comment nous comprend-il? Et comment, pour nous délivrer de nos péchés, Dieu Père a-t-il envoyé sa parole sur la terre pour qu'elle s'incarne dans un corps d'homme si minuscule? Et comment la parole de l'infini, donc infinie elle-même, car pourtant l'intelligence et la pensée de l'infini, comment la parole de Dieu a-t-elle pu s'incarner dans un corps fini et microscopique pour vivre avec des hommes et les ramener à Dieu dont ils s'étaient séparés par leur péché? Souvent, nous nous posons des questions difficiles auxquelles nous n'arrivons pas à répondre. Et puis un jour, sans savoir pourquoi, un ou plusieurs textes se présentent devant nos yeux. Et nous découvrons que c'est la réponse que nous attendions à nos questions. Mais qui nous répond ainsi? L'Esprit Saint, bien sûr. Pourtant, nous ajoutons immédiatement, mais qui est l'Esprit Saint? Et voici la réponse de l'Esprit Saint, nous rappelant ce que Jésus dit un jour à une Samaritaine. Jésus lui dit, L'eau que je donnerai deviendra en l'homme source jaillissante pour la vie éternelle. Compte tenu du contexte de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, cette eau dont parle Jésus est incontestablement le Saint-Esprit. Mais pourquoi Jésus compare-t-il l'Esprit-Saint à une source jaillissante, à une eau vive? N'oublions jamais que l'eau est la base de la vie sur la terre et qu'elle se fait toute à tous selon les besoins de chaque être vivant. Pourtant, elle n'est jamais différente d'elle-même, elle est toujours de l'eau. Et le Saint-Esprit que Jésus nous donne agit de la même façon au niveau de notre esprit. Relisons le début du chapitre 19 de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Or, il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir parcouru les hauts plateaux de l'Asie, vint à Éphèse, où il trouva quelques disciples auxquels il dit « Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous avez cru ?» Eux lui répondirent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit-Saint. » Paul dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul dit alors « Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Ayant entendu ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit-Saint vint sur eux, et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ces hommes étaient environ 12 en tout. Ainsi, l'Esprit-Saint donne la vie à notre cœur et à notre intelligence, comme l'eau donne la vie à nos corps mortels, tout en s'adaptant à nos divers besoins. En effet, l'Esprit-Saint distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Ainsi, à une âme pécheresse, le Saint-Esprit apporte d'abord des fruits de repentance et de justice. Puis, il enseigne à chacun tout ce qu'il doit savoir. Et les hommes peuvent enfin témoigner de Dieu, de sa grandeur, de son infinité, mais aussi de sa capacité à s'adapter aux besoins de chaque homme. Ainsi, nous avons une réponse à nos questions, et nous pouvons comprendre, intellectuellement, au moins un peu ce qu'est Dieu. Notre obscurité s'éclaire, mais cela est très insuffisant. Oui, Dieu est créateur de tout l'univers, fini et infini. Et la science moderne nous montre que l'infini, au moins l'infini matériel, est toujours fait avec des finis qui s'ajoutent sans cesse les uns aux autres. Oui, Dieu nous voit, car sans cesse il nous crée et il nous aime et il nous demande de l'aimer. Mais comme nous n'aimons pas assez Dieu qui nous aime, parce que nous sommes trop minuscules et trop finis pour aimer l'infini, Dieu nous envoie sa parole incarnée. Et en Jésus, nous voyons Dieu qui s'est mis à notre échelle. Et Jésus, parole de Dieu incarnée, ayant connu toutes les faiblesses et toutes les difficultés humaines, y compris les tentations, Jésus nous envoie son Esprit-Saint, pensée et amour de Dieu pour éclairer nos âmes. L'Esprit-Saint s'introduit dans nos âmes et les façonne, tout comme l'eau a imbibé nos corps. Mais il y a plus. L'Esprit-Saint, qui instruit nos âmes, les ouvre progressivement à la connaissance et à l'amour de Dieu, en utilisant parfois les découvertes scientifiques, du moins celles qui ne conduisent pas au mal. Et nous revenons aux paroles de Jésus à la Samaritaine. L'eau qu'il nous donne devient en nous source jaillissante pour la vie éternelle.